Les nuits de France Culture. Il est courant d'associer l'explosion musicale et artistique du mouvement punk à un pays, le Royaume-Uni. Sans doute en raison de l'importance de deux groupes anglais, The Clash et les Sex Pistols, dans l'histoire de ce style musical. Mais pour remonter aux origines du punk, c'est en réalité vers les États-Unis qu'il faut se tourner, et en particulier vers New York. Avec des formations comme les Ramones, Patti Smith, The New York Dolls, la ville vit naître une scène et un esprit qui marquèrent plusieurs générations. Énergie, concision, minimalisme, do it yourself étaient les mots d'ordre de ces groupes qui avaient leur code, leur éthique et bien sûr leur lieu de prédilection, dont un bar, un certain CBGB, première scène emblématique de cette vague de groupes new-yorkais. Vous allez entendre quelques-unes des grandes voix de cette époque et de ce milieu dans l'émission que voici, le quatrième temps d'une série de Chemins de la musique consacrée au journaliste américain Lester Banks. Parmi ces voix, Illy Crystal, propriétaire du CBGB, Joey Ramone, chanteur des Ramones, et Richard Hell, des groupes Television et The Voivodes. C'était le 22 juin 2000, dans Les Chemins de la musique, par Marc-Alexandre Milenvoy.
I haven't thought about Lester.
Lou Reed.
In ages. Oh, maybe, you know. We weren't really that close.
Lester Banks.
À la base, j'ai développé mon mode d'interview en posant aux artistes les questions les plus insultantes qui soient. Parce que le boulot de critique est terriblement ennuyeux, qu'il faut jurer obédience aux rockstars qui sont des personnes comme les autres. Ce sont des gens comme les autres. Le rock, c'est quelque chose qui doit vous faire sentir en vie. C'est quelque chose qui reste humain. Pour moi, le rock, c'est Elvis, Hank Williams ou Charlie Mingus.
J'étais de toute évidence brillant. Un artiste doux et un mâle sensible qui n'avait pas peur de montrer ses faiblesses. L'une des rares personnes comprenant réellement ce qui n'allait pas dans notre culture. Sujet sur lequel je parlais, donnais des leçons improvisées sans arrêt, surtout quand j'étais ivre, ce qui arrivait fréquemment, bien que pas tous les soirs. J'étais drôle, j'avais un sens de l'humour féroce, j'étais un individu vraiment unique et imprévisible, un artiste rock. J'étais probablement, sinon aujourd'hui, du moins demain, candidat au titre de meilleur écrivain d'Amérique. Qui était meilleur ? Bukowski ? Brooks ? Hunter Thompson ? Laissez tomber, j'étais le meilleur. Je n'écrivais pratiquement que des chroniques de disques, et encore pas tant que ça.
Qu'est-ce qu'un punk ? C'est un vaurien, un morveux. Dans les films américains, on traite les voyous de punk, mais aussi les nouveau-nés. John Wayne appelle punk le nourrisson recueilli par les trois hommes traqués dans le Fils du désert. Le punk, c'est pour Lester Banks le fantasme rock absolu, l'esprit malade du Velvet Underground sur le corps démantibulé d'Iggy Pop. Bien que Banks et d'autres journalistes aient déjà utilisé le mot punk pour définir le style musical créé par les Stooges, la musique punk naît, elle, à New York, au milieu des années 70. D'abord, les New York Dolls, une sorte de miroir de tout ce que l'Amérique bien-pensante n'a pas réussi à intégrer. Pendant leurs concerts, ils apparaissent grimés en travestis, avec un maquillage outrancier, des platform boots. C'est le début du rock décadent. Là où les hippies étaient beaux et pacifistes, le rock devient laid et vicieux. En 1975, le CBGB ouvre ses portes sur le Bowery, un quartier malfamé de Manhattan.
Illy Crystal, propriétaire du CBGB en 1975.
À l'époque, si vous vouliez jouer, vous deviez jouer des reprises.
Moi, j'ai décidé de leur donner leur chance. Je me suis retrouvé en déficit pendant 2 ans. Et puis, les gens ont commencé à venir. À l'époque, on n'appelait pas ça du punk, mais plutôt du street rock, le rock de la rue. Venez comme vous êtes, jouez comme en répétition, parce que c'était réellement des répétitions.
Ce
n'étaient pas des musiciens professionnels, c'était des gens qui avaient quelque chose à dire.
La magnificence de ça, c'est qu'ils créaient.
Ce que je trouvais bien, c'est qu'ils avaient la liberté de créer à leur manière. Ils n'étaient pas obligés de copier les autres. C'était des années de récession. Il y avait beaucoup de musique, mais pas d'endroit pour jouer. Alors, c'est ce que j'ai fini par faire. Il y avait des gens qui jouaient du rock et qui avaient envie de jouer. J'ai donc fini par ne proposer que de la musique originale. C'était vers 1974.
Joey Ramon.
C'était un autre monde parce qu'il y avait une nouvelle scène. Le CBGB était vraiment le seul club de New York où l'on pouvait jouer nos propres compositions. À Max Kansas City, il fallait déjà avoir un contrat d'enregistrement. Mais le CBGB, c'était vraiment un bar de clochards. Quand nous avons trouvé cet endroit, Television y jouait déjà. Nous avons commencé à jouer le plus souvent possible, une fois par semaine, tous les lundis. Et du monde, parce que Hailey Crystal, le propriétaire, filait de l'argent au Village Voice pour qu'il nous fasse de la pub. Nos premiers fans étaient une sorte de foule warholienne. Nous, on voulait aussi avoir des mots.
Barry, in those days, was, you know, kind of an unsavory place for the kind of crowd, I guess. We, you know, a lot of people wouldn't come. You know, it was kind of word of mouth.
Quelques personnes du village venaient. Il y avait une vraie solidarité entre les groupes, avec Blondie, Television. Plus tard, les Talking Heads, les Cramps ou les Dead Boys. C'était un peu le dernier salon où l'on cause, tout le monde traînait là. À cette époque, je n'avais vraiment pas d'argent, alors je restais là. En guise de dîner, nous buvions quelques bières. C'est en quelque sorte ma seule expérience de vie en société. À la fin, j'ai même fini par habiter juste en face, dans un loft qui appartenait à Alan Vega, avant qu'il me foute dehors. Le punk new-yorkais est très différent du punk anglais des Sex Pistols. Il le précède. D'ailleurs, à la même époque, Malcolm McLaren, qui deviendra plus tard le grand manipulateur du punk, essaye de relancer la carrière des New York Dolls en leur collant une étiquette de révolutionnaires marxistes. La présence de ces groupes et leur côté arty, ils sont nombreux à revendiquer l'influence du Velvet et de Paul Verlaine, drainent toute une population de curieux aussi Luigi, mais aussi d'intellectuels. On y croise de jeunes voyous du Queens, mais aussi Allen Ginsberg ou William Burroughs, ou encore le tout jeune Salman Rushdie. La musique punk n'a pas vraiment de sens, la portée du punk est avant tout sociale. En l'espace de quelques mois naissent de nouveaux codes visuels, linguistiques ou vestimentaires. Le punk divise toutes les catégories sociales et ne laisse personne insensible. À nouveau, le rock est vivant, le rock est violent, le rock redevient drôle. Le punk est un mouvement d'idées avant d'être un mouvement musical.
Richard Hell.
When I came to New York, my whole intention was to make a
quand je suis arrivé à New York, j'avais l'intention de devenir poète. J'étais totalement ignorant, n'avais aucune éducation, j'avais arrêté l'école. Mais avant tout, l'idée d'être un poète. C'était une époque intéressante pour la poésie à New York. C'était le moment du psychédélisme, sexe, drogue.
You know, drugs and sex and anti-war, and it's called the baby boom here. You know, it was all the kids that were born after the
baby boom,
the largest
population, avec la population jeune, la plus importante de l'histoire.
Size of the population, ever. There was also a big burst of energy.
Et il y avait vraiment des choses intéressantes dans le domaine de la poésie.
And the way it manifested itself was consistent with the times.
Un côté très anti-establishment et aussi un côté do it yourself, faites-le-vous-même.
Because what they would do is they would smoke a lot of dope, do you know, sit around the kitchen table, write poems together.
Fumaient beaucoup, s'asseyaient autour d'une table, écrivaient tous ensemble et publiaient leurs livres le lendemain. En contournant toutes les règles de la machine littéraire. Il y avait eu des magazines, tout cela était très spontané. J'étais toujours très curieux de voir qui avait publié un livre pendant la nuit. Mon meilleur ami, Tom Verlaine, était à New York. Il s'intéressait aussi à la littérature. Il avait acheté une guitare.
Il
composait, mais il n'avait aucune idée de la manière de faire entendre ses chansons. Alors j'ai commencé à penser à cette idée de devenir musicien. À cette époque, la musique était très intéressante. La musique, c'était vraiment le journal de la jeunesse. C'était l'époque où les idées étaient distribuées aux jeunes. Je trouvais des choses très émouvantes dans les chansons. Les mots sont les mots, chansons ou en écrit. Alors j'en ai parlé à mon ami Tom.
I thought, you know, why not do
it? C'est comme ça qu'on a commencé.
It's fascinating to observe what the mirror does, but when I dine and
ce que je nie toujours, et je n'ai pas besoin d'en chercher d'autres preuves que la vue de Richard Hell sur scène, se tordant, se tortillant, se projetant en avant, se cognant dans ses guitaristes comme un quelconque derviche blessé, rien n'est plus éloigné de la vacuité que ses yeux qui lui sortent de la tête comme des ruches fracassées, hurlant qu'on les laisse s'échapper d'ici, quoique nous entendions par ici. Et nous n'entendons pas, et c'est pourquoi nous ne pouvons établir de lien. Et voilà pourquoi Richard Hell est au moins pour ces instants-là nécessaire. Le seul problème qui limite son caractère d'urgence est que son intelligence aux possibilités impressionnantes est finalement réduite au tourment dont elle se délecte. Je lui en veux pour ça, mais je dois quand même rendre hommage à l'intelligence d'origine. Richard Hell est un exilé qui marche dans la grande rue, un amant blessé qui aspire à être son propre juge sans merci et marche main dans la main avec lui-même.
Sur scène, le groupe punk ne danse pas. Tout au plus esquisse-t-il quelques mouvements d'aliénés. La tête ne contrôle plus le corps. Les Ramones écrivent Teenage Lobotomy. Richard Hell, le premier chanteur de Television, écrit Blank Generation, tout effacé, retourné au néant. Lester Banks voit dans le mouvement punk un recommencement. La mise en pratique de ses théories sur le rock, une manière de faire repousser l'herbe après le passage des Vandales. Un disque de punk est un concentré de puissance, où tout ce qui doit être dit est dit à toute allure. Chaque galette de vinyle représente la fin du monde ou l'origine du monde. Chaque album donne l'impression de dire tout ce qui doit être dit. Le punk est une performance collective. Il revendique le fait qu'une représentation physique, alliée à une idée esthétique, peut être génératrice de violence et de sang. Jim Dorogatis, auteur de Let It Blurt, la biographie de Lester Bangs.
Je pense que là encore, on peut dire que le punk vient directement de la Generation via la définition qu'en a donnée Lester, avec cette notion de l'esthétique trash, qui signifie que la beauté est dans la laideur. William Burroughs, qui écrit et qui célèbre la laideur, le côté noir, cynique, le punk rock qui fait à peu près la même chose.
And Lou Reed was another conduit. I mean, the reason the flower power movement.
Des gens comme Lou Reed ou Lester Banks ont tout de suite vu que le mouvement Flower Power de 1967 était juste une mode éphémère. On forçait les gens à être bons, alors que la réalité était beaucoup plus dure que ça.
Sur la pochette du premier disque de Television, la pâleur des visages des membres du groupe dénote étrangement avec le fond noir. Au CBGB, Richard Hell déchire ses vêtements pour que l'on aperçoive sa peau de gamin malingre. Sur son t-shirt, on peut lire l'inscription « Please kill me »,« S'il vous plaît, tuez-moi ». Il multiplie dans ses chansons avec les Voidoids des références morbides et dépressives, citant Rimbaud et Baudelaire. Les paroles sont des poèmes, la musique est un support au son de la révolte, comme si l'on cherchait un improbable mélange entre Dylan et Albert Heller. Patti Smith se fait vraiment connaître sur la scène du CBGB avec son guitariste Lenny Kaye. Si l'on connaît bien l'œuvre de Patti Smith, on sait moins qu'elle a réellement commencé comme critique rock, à Rolling Stone d'abord, puis à Cream, aux côtés de Lester Banks. Dave Marsh, cofondateur du journal Cream.
Sometime in what must have been 1970.
Un jour, je pense que ça devait être en 1970, le manager de Johnny Winter est venu me voir avec cette cassette.
Ken Kelly. And they played me this reel to reel tape which I would die to find again.
Je donnerais ma vie pour la retrouver. Le premier concert donné par Patti Smith et Lenny Kaye à l'église Saint Mark's Place à New York.
And they did a lot of the things that are in her first book.
Où ils ont joué une bonne partie des poèmes de son premier livre, avec Lenny qui faisait juste hurler sa guitare derrière. J'ai trouvé ça merveilleux et je lui ai volé sa cassette. Je l'ai fait écouter à tout le monde pendant des semaines et j'ai finalement réussi à joindre Patty. J'ai demandé si elle nous autorisait à publier ses poèmes. À l'époque, Patty écrivait des chroniques de disques pour Rolling Stone, mais je ne l'avais jamais rencontrée. En tout cas, aucun de ses poèmes n'avait été publié. Alors, nous avons fait deux pages entières dans Cream. Lester a été très impressionné et a eu l'intelligence de lui demander de collaborer à Cream. Je me rappelle notamment d'un article sur les Stones, quelque chose de très personnel, qui s'appelait « Brian Jones est mort » et qui parlait de l'impact que ça avait eu sur elle.
Ce que Lester Bangs apprécie le plus dans le punk rock, hormis l'application stricto sensu de ce qu'il définissait comme étant l'esthétique trash, c'est la barrière qui tombe enfin entre les stars et le public. Lester Bangs se retrouve propulsé malgré lui dans un rôle de théoricien du punk rock, où les groupes attendent de lui des jugements et des prophéties. Il devient un acteur à part entière de cette scène musicale, allant jusqu'à jouer de la machine à écrire en écrivant ses articles sur scène dans les concerts du JJ's Band. Lester Bangs est aussi le premier à voir que le punk rock n'est qu'une illusion et qu'il est même probablement le meilleur produit de marketing inventé par l'industrie musicale pour relancer le marché. En signant tous les groupes, les grandes compagnies de disques finissent par avoir raison de l'esprit révolutionnaire qu'incarnait cette musique. Bientôt, les Clash joueront dans les stades et Billy Idol, le leader du groupe emblématique Generation X, ira s'installer sur la côte ouest des États-Unis, pratiquer le bodybuilding et un rock diffusé en prime time sur MTV. Pour Lester Bangs, le punk aura au moins eu l'avantage de rapprocher le rock d'autres formes artistiques. Le punk rock représente en fait le retour au romantisme, peut-être la dernière touche de romantisme dans un monde de plus en plus scientifique et matérialiste. Plus que tout autre mouvement artistique, il a su remettre au centre de ses préoccupations l'esprit du romantisme, l'individualité, la liberté et la rébellion. L'exaltation de l'émotion et de l'imagination, avec son lot de contradictions et de paradoxes. Mais on peut aujourd'hui considérer ce mouvement comme le dernier soubresaut d'une culture en train de disparaître. Jusqu'à la fin de sa vie désormais, Lester Banks va s'évertuer à couper les derniers liens qui l'unissent à la rock critique. Il va monter son propre groupe et commencer à écrire divers manuscrits où la musique n'est plus au premier plan. Chemin de la musique consacré à Lester Banks, aujourd'hui quatrième volet, le punk rock américain. Demain, Lester Banks est-il mort en vain ou le romantisme du rock?
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 juin 2000. À suivre.